Voilà, je suis heureux de vous trouver ou de vous retrouver. Je vois M. et Mme Dariès, que nous connaissons bien. Ils étaient dans notre région et puis ils sont partis à l'étranger. Voilà, nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Et je voudrais simplement prendre un verset de l'Écriture pour ne pas prendre trop de temps. Alors, le frère a dit que vers 11h05, mais ça sera un petit peu plus, parce qu'il m'avait dit, tu as une demi-heure pour prêcher. Alors, je prends ma demi-heure, et puis, voilà, merci. Voilà, nous lisons dans Actes chapitre 3, verset 1er. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Amen. Voilà, donc on aurait pu lire plus, mais on va s'arrêter sur ce verset. Et on va voir ce qu'on peut trouver dans ce verset. Et à partir de là, nous allons voyager un petit peu dans l'Écriture. Donc deux hommes, Pierre et Jean, deux apôtres, donc deux hommes au caractère différent. L'apôtre Pierre, c'était l'homme d'action, le fonceur. Lorsque Jésus posait une question, il était là pour répondre tout de suite. Et puis l'apôtre Jean, c'était l'homme tranquille, l'homme de la communion, celui qui le soir du repas, de la trahison, lorsque Jésus a été trahi par Judas, c'est lui qui s'est penché sur le sein de Jésus et qui a posé à Jésus la question en lui demandant qui est celui qui va te livrer. Alors leurs appels respectifs, je vous fais grâce des textes, je les ai copiés. Acte 4, versets 18 à 23. L'Écriture nous dit, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Lorsque Jésus appelle ses disciples, donc là il va avoir quatre apôtres, Pierre, André, Jacques et Jean, et l'Écriture nous dit que Pierre, quand Jésus l'a appelé, il était en train de faire quelque chose de particulier. L'Écriture nous dit qu'il était en train de jeter un filet dans la mer. Et Jean, lui, il était dans une barque en train de réparer les filets. Et peut-être que lorsque Jésus a vu Pierre jeter le filet dans la mer, il a dit, c'est celui-là qu'il me faut pour le jour de la Pentecôte, pour jeter le filet et ramener 3000 poissons. Alors des fois, c'est une pêche abondante, 3000 poissons d'un coup. Des fois, c'est une pêche un peu moindre. Et lorsque, par exemple, dans Acte 10, il rentre chez Corneille, ce n'est pas 3000 âmes qui se convertiront, mais c'est une bonne poignée, n'est-ce pas ? Grosse poignée de personnes qui se convertiront. Donc, ce que le Seigneur veut, eh bien, c'est que lorsque le filet de l'Évangile est jeté, eh bien, les âmes puissent être sauvés. Et puis alors, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Eh bien, l'Écriture nous dit qu'il était dans une barque, il était en train de réparer les filets. Donc, réparer les filets, moi j'habite à Agde, et je vais pratiquement tous les après-midi à la criée. J'ai des amis qui sont là-bas, je pêchais, maintenant c'est interdit de pêcher là-bas, mais je pêche ailleurs. Et je vois les pêcheurs qui, quand ils ont chaluté, eh bien, ils ramènent les filets et ils réparent les filets. Et ça demande un travail de minutie, de précaution. Et lorsque Jésus a vu il a vu Jean qui était en train de réparer les filets, il a peut-être pensé, tiens, c'est lui qu'il va me falloir pour écrire l'Évangile, les Épîtres, l'Apocalypse. C'est dans l'Évangile, dans les Épîtres, un mot qui revient très souvent. C'est un mot qui répare les cœurs brisés, les cœurs déchirés. C'est le mot « amour ». Donc, Jésus les appelle l'un et l'autre. Et l'Écriture nous dit que Ils étaient donc dans ce travail, complémentaires dans le travail. Essayez d'imaginer que Pierre ait jeté dans la mer un filet qui n'ait pas été réparé par Jean. Essayez de concevoir également que Jean, de son côté, répare un filet que Pierre n'utilise pas. Donc ils étaient complémentaires dans le travail, dans leur travail. Et ils étaient également complémentaires dans l'œuvre de Dieu. Nous allons le voir ensemble dans quelques instants. Chacun a reçu de la part du Seigneur un ministère différent. Ils ne sont pas les mêmes, mais ils sont complémentaires. Et je remercie le Seigneur parce que quand je vois mes collègues là, Thierry, Alain, Emmanuel, qui sont là, eh bien, nous sommes ensemble dans l'œuvre de Dieu, des ministères qui peuvent être différents, mais qui sont complémentaires. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, je lis la version Parole de vie, « Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul », quand un autre dit « Moi, j'appartiens à Apollos », est-ce que ces paroles ne sont pas encore bien humaines ? Apollos, c'est qui ? Et Paul, c'est qui ? Nous sommes seulement des serviteurs de Dieu. C'est par nous que vous êtes devenus croyants, et chacun de nous a travaillé selon les dons que Dieu lui a faits. Moi, dit l'apôtre Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, mais celui qui fait pousser est tout, et c'est Dieu. Seulement planter, ça ne suffit pas, il faut arroser. Seulement arroser, s'il n'y a pas de semences en terre, ça ne suffit pas. Et puis, essayez de mettre toutes les... Vous avez un kilo de semences, ou 500 grammes peut-être seulement, vous mettez toute la semence au même endroit. Ça ne poussera pas parce qu'elle va s'étouffer. Et donc, nous avons besoin de faire un travail qui est cohérent et un travail complémentaire. Alors, un autre exemple dans l'Écriture, la parole de Dieu nous parle du diacre Philippe, qui est descendu dans la ville de Samarie et qui y a prêché le Christ. L'Écriture nous dit les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. L'Écriture nous dit dans Actes chapitre 8 toujours que lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y ont envoyé Pierre et Jean. Ils sont allés pour prier pour eux afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque Philippe a vu arriver Pierre et Jean, il n'en a éprouvé aucun ressentiment. Au contraire, lui, il avait un ministère qui amenait les âmes à la conversion jusqu'au baptême d'eau. Mais dans l'Église, il y avait également d'autres ministères qui ont été employés par Dieu pour conduire ses croyants plus loin. Et nous devons donc rendre grâce à Dieu pour ceux qui ont le ministère pour aller chercher les âmes, pour le ministère d'évangéliste, et puis il y a le ministère de pasteur, docteur, etc. Donc, il y a dans Pierre et André, Jacques et Jean, c'était une SARL de l'époque, n'est-ce pas ? Société anonyme à responsabilité limitée. Donc, l'Écriture nous dit dans Luc chapitre 5, verset 10, Jacques et Jean étaient les associés de Simon et d'André. Donc, ils étaient associés dans la vie du travail où chacun retirera de ses efforts un bénéfice qui lui sera personnel. Après avoir été associés dans les affaires, eh bien, ils sont maintenant frères en la foi, ce qui est bien différent. Et l'Église du Seigneur, ce n'est pas une société. L'Église du Seigneur, ce n'est pas un club. L'Église du Seigneur, c'est une famille. Nous sommes, les uns et les autres, des frères et des sœurs. Moi, avant de me convertir, je ne savais pas que mon père avait autant d'enfants. Et il en avait de toutes les couleurs. Et quand je vois des frères et sœurs de couleur, eh bien, je dis merci Seigneur, parce que c'est cela l'Église. Lors du réveil qu'il y a eu aux États-Unis dans les décennies passées, les gens ont été étonnés parce que les serviteurs de Dieu et les chrétiens de différentes dénominations, de différentes races, de différentes couleurs, ils étaient ensemble des frères et des sœurs. Alors, à 10 reprises, le binôme Pierre et Jean est cité dans les Écritures. Nous sommes issus de milieux différents, de cultures qui ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas tous le même caractère. Moi, j'ai un bon caractère, tandis que vous, vous avez un caractère meilleur. Et nous devons donc nous rappeler que nous sommes membres d'une seule et même famille. Antioche, l'Écriture nous dit dans Actes 13, qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Donc ils étaient ensemble, servaient le Seigneur. Un cas identique se trouve parmi les apôtres. Lorsque Jésus appelle Matthieu, Lévi, qu'est-ce qu'il faisait Lévi, lui? Parce que quand on regarde dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, les Lévites, ils étaient chargés, entre autres, de leur service dans le temple, de collecter les offrandes pour l'entretien du temple. Et Lévi, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Eh bien, il était assis au lieu des péages et il collectait l'argent, non pas pour l'entretien du temple, mais pour le compte des Romains. Entre parenthèses, il se servait lui-même. Hein? Pas loin d'ici, vous savez qu'il y a un centre des impôts qui n'est pas loin. Hein? Il est juste de l'autre côté de la rue, là. Parce que tout à l'heure, là, mon GPS m'a fait perdre complètement. J'ai fait 2-3 fois le tour, il y a 20 minutes au moins que j'aurais dû être arrivé. Alors j'ai demandé à une dame et j'ai dit, il y a le centre des impôts qui est à côté de l'église évangélique. Ah oui, ça y est, là tout le monde le connaît, n'est-ce pas? J'ai pensé un jour, un monsieur reçoit une lettre, même si vous étiez exilé au bout du monde, si tout le monde vous avait oublié, nous on ne vous oubliera jamais. Signé, finances publiques. Alors, lorsque Jésus appelle Matthieu, lui, percevait les impôts pour le compte des Romains. Mais dans le nombre des 12, il y avait aussi Simon le Zélote, ou Simon le Cananite. Qu'est-ce que c'était, les Zélotes ou les Cananites? Eh bien, ils étaient membres d'un parti de patriotes qui était opposé à la présence des Romains et opposé à ceux qui collaboraient avec les Romains. Donc, avant d'être appelé par Jésus, Matthieu, Lévi et Simon le Zélote, ils étaient ennemis. Mais lorsqu'ils ont été appelés par le Seigneur, ils sont devenus des frères. Que le Seigneur soit béni. Alors, l'Église est bâtie avec des pierres vivantes et non avec des briques, comme c'était le cas pour la tour de Babel. Alors, il y a une parfaite communion d'esprit. Désirons-nous avoir une preuve que Pierre et Jean partageaient une parfaite communion d'esprit? Jésus dit dans Matthieu 18, verset 19, « Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Résultat, Pierre et Jean montent ensemble au temple. Ils étaient unis. Il y avait une seule prière qui, en quelque sorte, est montée leur cœur vers Dieu. Le boiteux est guéri. Alors, vous allez dire, ouais, mais ils n'ont pas marché pendant longtemps pour qu'il y ait une rivalité entre eux. Ils ont marché peut-être centaines de mètres, pas longtemps. Mais si nous allons dans Actes chapitre 8, verset 14-15, les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils y ont délégué Pierre et Jean qui y sont allés pour prier pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et les Samaritains ont été remplis du Saint-Esprit. Et entre Jérusalem et la Samarie, il y avait quand même 60 kilomètres, une soixantaine de kilomètres. Autrement dit, au moins 11 heures de marche. Et oui, eh bien, voyez-vous, donc, ils marchaient ensemble et il n'y a pas eu de problème entre eux. Je saute un petit peu quelques remarques. Je lis dans Jean chapitre 20, versets 3 à 8. Pierre et l'autre disciple, c'est-à-dire l'apôtre Jean, cet ensemble, donc, ils vont découvrir la réalité de la résurrection de Jésus. Ils vont découvrir le tombeau vide. Pierre et Jean sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. Donc l'apôtre Jean a couru plus vite que Pierre. Et l'Écriture nous dit, Hébreux 12, courons donc dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, etc. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Et vous savez que quand on court avec d'autres personnes, il y en a qui courent plus vite, d'autres qui courent moins vite. Jean a couru plus vite que Pierre. Et Jean est arrivé le premier au sépulcre. Et quand il est arrivé, il n'a pas dit derrière, ben dis donc, hein, c'était temps que tu arrives, hein, il y a longtemps que je t'attends. Et puis c'est moi qui ai gagné. Non, pas du tout, qu'est-ce qu'il a fait? L'Écriture nous dit, il a attendu Pierre. Pierre arrive et lorsque Pierre arrive devant le sépulcre, il rentre dans le sépulcre et Jean rentre avec lui, il rentre après lui. Donc il s'agit de monter ensemble ou de courir ensemble, mais pas pour semer les autres, pas du tout, mais ensemble. L'Écriture nous dit que deux valent mieux qu'un parce qu'ils se retirent un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Une petite remarque, lorsque Jean et Pierre rentrent dans le sépulcre, ils remarquent les bandelettes qui avaient entouré le corps de Jésus, un peu comme la chrysalide, n'est-ce pas, le papillon qui s'en va, qui laisse son enveloppe. Et ils ont remarqué également le linge qu'on avait mis sur le visage de Jésus. Et l'Écriture nous dit que ce linge, il était plié dans un lieu à part. Et ça, pour le juif, ça a une signification. À l'époque, lorsqu'un artisan avait confié une mission à un artisan, un chantier, lorsqu'il avait terminé le chantier, lorsqu'il pensait qu'il était achevé, accompli, il prenait un linge qu'il pliait délicatement. C'était le signe d'une mission accomplie. Et lorsque Jésus ressuscite, eh bien, il me semble que c'est lui qui a dû plier le linge comme pour dire la mission est accomplie. C'est pas Nicodème, c'est pas Joseph d'Arimathée qui avant la résurrection de Jésus, quand ils ont déposé le corps de Jésus dans le sépulcre, c'est pas eux qui ont plié le linge. C'est parce que la résurrection fait partie de l'œuvre intégrante de notre rachat et de notre salut. Assez rapidement, j'ai encore d'autres choses, mais ça ne fait rien. Alors, ils montent ensemble au temple. Donc, ils marchent ensemble. Vous allez me dire, alors, il n'y a jamais eu de problème entre Pierre et Jean ? Mais si. Il y a deux fois où, dans l'Écriture, il y a eu un problème entre eux. Alors, je ne vous demande pas de chercher, mais je vais vous le dire. Un jour, il y a la maman des fils de Zébédée. Une question biblique. Comment s'appelait le père des fils de Zébédée ? On m'a posé la question. Ah ben c'était Zébédée, bien sûr. Hein. Alors, la maman, elle, s'approche de Jésus et elle dit à Jésus, « Seigneur, moi j'ai une demande à te faire, une requête. C'est que je voudrais que dans ton royaume, mes deux fils, Jacques et Jean, eh bien, ils soient assis à ta droite et à ta gauche. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'Écriture nous dit, les dix apôtres, les autres apôtres, Jacques et Jean, mais les dix autres, se sont mis en colère. Ils se sont indignés. Et parmi ceux qui se sont indignés contre Jacques et Jean, il y avait un certain Simon-Pierre. Eh oui. Mais lorsque la maman de Jacques et Jean demande que mes deux fils soient assis à ta droite et à ta gauche, elle demandait une chose absurde. Pourquoi ? Eh bien parce que celui qui se serait assis à la gauche de Jésus aurait été assis à la place de Dieu le Père, puisque Jésus est assis à la droite de Dieu. Alors, vous voyez, il y a des choses qu'on demande, et avant de les demander, il faut quand même réfléchir. Et puis, l'Écriture nous dit, Jésus les appelle et il met les choses au point. Je passe sur certaines choses. Nous devons veiller à ce qu'aucune ambition personnelle ne vienne altérer notre entente fraternelle. Et puis, une autre incompréhension. Jean, c'est lui maintenant qui va se mettre en colère contre Pierre. Quand ? Actes chapitre 10. Lorsque Pierre a la vision de la nappe qui est remplie d'animaux, quadrupèdes, des oiseaux, etc., qui descendent sa bête vers la terre, Dieu lui dit « Tu es mange », eh bien, c'est un message qu'il lui adresse pour lui montrer qu'il n'y a pas que les Juifs qui avaient besoin d'être sauvés et droit au salut, qu'il y avait aussi les non-Juifs, les païens. Alors, un ange est envoyé en même temps auprès de Corneille et Corneille envoie des hommes à Joppé chercher l'apôtre Pierre qui vient. Et Pierre, il s'en est pas référé aux autres frères en leur demandant « Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que je fasse ?» Non, c'est Dieu qui le conduit. Et lorsque, Actes chapitre 11, l'Écriture nous dit que les frères ont appris que Pierre était rentré dans la maison d'un païen et avait mangé avec eux, avec lui et avec sa famille, eh bien, les apôtres se mettent en colère. Et l'Écriture nous dit que les apôtres donc se sont mis en colère contre Pierre et Jean, contre Pierre, pardon, Je lis au verset 18. « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Ils se calmèrent ». Ça veut dire qu'avant, il avait dû avoir un moment où Pierre, il avait dû en entendre. Hein ? Mais oui. Et parmi ceux qui se sont dressés contre Pierre, il y avait l'apôtre Jean. L'autre fois, c'était Jean qui demandait à être assis auprès de Jésus. Pierre s'est mis en colère contre lui. Maintenant, c'est Jean qui se joint aux autres pour se mettre en colère contre Pierre. De telle sorte que le Seigneur n'appelle pas que des Juifs, n'appelle pas que des païens, il nous appelle tous à nous approcher de lui. Le Seigneur dit ceci, le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. On ramène le filet rempli de toutes sortes de poissons. Quand le filet est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau. Ils s'assoient, ils ramassent les bons poissons dans des filets, dans des paniers, pardon, et ils rejettent ceux qui ne valent rien. Et jusqu'à Actes chapitre 10, ceux qui faisaient partie de l'Église, c'était soit des Juifs, soit des prosélytes, c'est-à-dire des païens qui avaient embrassé la religion juive. Et il n'y avait aucun non-croyant, aucun païen qui, du paganisme, était rentré directement dans l'Église sans passer, pour les hommes, par la circoncision et, pour tous, l'observation de la loi. Et de telle sorte que lorsque, si on veut spiritualiser ce texte, les pêcheurs, puisque Jésus dit « je vous ferai pêcheur d'hommes », ils ramenaient toutes sortes de poissons, mais ils faisaient un tri. Juifs, prosélytes, païens, on les rejette. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Désormais, l'Écriture nous dit, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, eh bien, ces juifs, non-juifs, tous qui sont appelés par le Seigneur. Remarque, et je terminerai après, l'Écriture nous dit que Pierre et Jean, ils allaient à la réunion de prière, ils se rendaient à la réunion. Si le boiteux avait été guéri quand il sortait de la réunion, on aurait pu penser, ben, ils ont eu une réunion formidable. Non, ils allaient à la réunion et en allant à la réunion, ils apportaient quelque chose. Nous venons à l'église, nous venons pour recevoir quelque chose. Mais qu'est-ce que nous y apportons ? Nous apportons quelque chose. Je viens, j'apporte ce que j'ai. J'aime beaucoup lorsque Jésus parle de Marie de Béthanie qui a répandu le parfum. Elle a été méprisée par certains. Et Jésus dit, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait ce qu'elle a pu. On fait ce qu'on peut. Moi, je fais ce que je peux. On ne peut pas demander à un ingénieur de faire le travail qui ne lui convient pas. Demander à celui qui balaye la salle de prêcher, bah, peut-être il y arrivera. Mais chacun a reçu quelque chose. Il n'y a pas de travail ou d'œuvre dévalorisante dans l'Église. Et essayez d'imaginer que vous rentrez dans une salle qui est sale, dans un local qui est sale. Oh là, vous avez dit, oh, mais vous rentrez dans un local qui est propre, vous êtes accueillis, et ça, ça marque. Ça, ça marque. Alors, je termine avec autre chose. Les frères en ont parlé tout à l'heure. Simon-Pierre, Jean 18, versets 15 à 17. Simon-Pierre, avec un autre disciple, c'est-à-dire l'apôtre Jean, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Remarquez une chose. Il n'est pas dit que Jean, puisque l'autre disciple c'est Jean, il n'est pas dit que Jean connaissait le souverain sacrificateur. C'est l'inverse. Ça, c'est important. Il était connu du souverain sacrificateur. Et qui c'est notre grand souverain sacrificateur ? C'est Jésus. Est-ce que Jésus nous connaît ? Un jour, Jésus dira à certains, « Je ne vous ai jamais connu. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, je n'ai jamais pu rentrer, regarder, pénétrer dans votre cœur pour voir ce qui s'y passait, pour, entre guillemets, y mettre de l'ordre. Et donc, l'apôtre Jean rentre dans la cour du souverain sacrificateur, là où était Jésus, mais Pierre, lui, reste dehors. Et Jean, il est en souci pour son frère qui n'est pas rentré dans le lieu où était Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il dit, moi, je ne veux pas être seul avec Jésus. Je veux que mon frère, lui aussi, il rentre. Nous savons ce qui s'est passé, malheureusement. Pierre va renier Jésus. Notre frère nous a dit quelques mots ce matin. Et notre désir à tous, mes frères et sœurs, c'est de marcher ensemble, c'est de monter ensemble, c'est peut-être aussi de courir ensemble, mais que les premiers vont attendre ceux qui arrivent après, comme Jacob dira à Ésaü, « Je marcherai au pas du troupeau, je ne veux pas forcer la marche du troupeau qui risquerait de périr. » Donc, les uns et les autres, puissions-nous faire de cette parole notre parole. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Eh bien, mes frères et sœurs, de la même façon, je ne peux pas concevoir d'être privé de la présence de mon frère, soit pour ce temps, soit dans l'éternité, quand nous rentrerons dans la présence du Seigneur. Et notre Seigneur, ce n'est pas le moment où il sera, comme il l'a été, battu, flagellé, maltraité, mis à mort, mais nous rentrerons dans sa présence quand il sera entouré des anges, entouré des chrétiens, et vous vous rappellerez, promettez-moi de vous rappeler de ce que nous avons vécu ce matin. Quand nous serons dans le ciel, Emmanuel, tu me diras, tu te rappelles, Jean-Claude, de ce que tu as prêché? Je dirai, oui, oui, tu veux mes notes? Il n'y en aura pas besoin. Hein, voilà, on va remercier le Seigneur. Voilà. Thierry, tu veux remercier le Seigneur, s'il te plaît? Merci.